Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et sinon pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Par le bout de la lorgnette, exactement la 50e, il me semble. Oui, c'est
déjà
ça. C'est spécial Canada et Québec. Salut Valérie.
Salut.
Comment ça va?
Eh bien super. Et alors, vous?
Ça va très bien. Il paraît que tu as fait un malheur. Qu'est-ce qu'il y a, Pauline? Allez, demande-nous au micro. C'est les casques qui marchent pas. Ah, et là, ça va? Ça devrait aller là. Hein?
Non. Oui. Oui.
Bon, allez, super.
Mais c'est trop fort.
Ah mais il y a des boutons là pour baisser. Regarde, hop, tu peux baisser.
Moi, j'ai pas de casque.
Mais ça fait que 50 émissions. On n'est pas encore au point.
Oui, c'est vrai.
Alors Valérie, tu as fait un malheur à Lyon, tu as fait alors, la conteuse professionnelle.
Je ne sais pas si j'ai fait un malheur, mais du moins j'ai compté à Lyon dans le cadre de l'opération La Lozère pousse le bouchon. Et c'était très chouette, donc j'en profite pour faire un petit clin d'œil à la Fédération départementale des foyers ruraux qui m'avait gentiment invité à les compter pour cet événement. Et c'était super.
Oui, moi on m'a dit que c'était extra tes comptes.
Extra?
Ouais.
Qui c'est qui t'a dit ça? On en parlera
plus tard. Des personnes. Salut Popo.
Salut tout le monde.
Comment ça va Popo?
Super bien.
Alors Canada, Québec, ça doit pas être trop sombre comme livre.
Ouais, il y en a un, ils ont quand même réussi. Hein.
Ah, c'est quand même toi. On va essayer le micro s'il marche, Héloïse, vas-y, dis à moi.
Oh, voilà, ça marche.
Donc, ça marche, c'est bon.
On a bonjour bon. À tous.
Bon, mais Canada, Québec, donc qui c'est qui imite le Québécois parfaitement dans cette émission?
Tabernacle.
Très bien. Vas-y. Et toi, Valérie? Non.
Attends, moi, il faut que je le lise pour. Je pense que dans ma tête, je parle très bien québécois. Ils n'ont pas de placière ici.
Donc, c'est ça fait bien très, ça.
Très suisse, ouais, c'est bien.
Si, très bien. Pourquoi Héloïse avoir décidé de ce thème?
Alors, parce que j'avais participé au festival du film québécois à Florac, oui, qui avait eu lieu il y a quelques semaines. Donc pour cela, j'avais établi une sélection de littérature québécoise. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on connaissait pas tellement les noms des auteurs, qu'on connaissait pas cette littérature qui est pourtant très riche. Donc je me suis dit, qu'à cela ne tienne, on va faire ça.
Eh bien, voilà. Tu as eu bien raison. Valérie qui est dissipée, là. Allez, tu vas commencer.
Je ne suis pas dissipée, je cherchais mes notes.
Ah, pardon.
Pas changé. Mais je les ai trouvées, donc je vais pouvoir entamer l'émission. Et donc, je vais entamer l'émission par Michel Tremblay et les vues animées. Michel Tremblay, donc, c'est un conteur, un adaptateur, un traducteur, un scénariste, un parolier, un librettiste, un metteur en scène et bien sûr un auteur. Son livre s'appelle Les vues animées. Donc c'est un livre en fait dans lequel c'est des tout petits récits dans lequel il va d'abord nous faire rire. Mais vraiment rire à haute voix. Mais rire, mais à ne pas pouvoir. Alors déjà, on rit parce que c'est sa vie à lui. Donc c'est un peu comme c'est pas vraiment une autobiographie, mais il va nous raconter ses moments de vie. Et là, en fait, tout va tourner autour de ses rencontres avec le cinéma et ses premières vues. D'où le titre, les vues animées. Il va raconter sa première fois devant Bambi, sa première fois devant Blanche-Neige, sa première fois devant Cendrillon, sa première fois devant La Fille des Marais. Et au fur et à mesure, il va prendre de l'âge, donc il va avoir des approches de tous ces films très différentes. Et chaque film, en fait, il va raconter donc un peu dans sa famille comment ça se passe quand il va partir au cinéma. Et alors, c'est jouissif parce que tous les dialogues donc sont racontés avec un Québécois fabuleux, enfin les mots, les expressions, et quand on le lit, on a vraiment
tu l'entends.
Ah, et oui, tu comprends tout.
Ah oui, tu comprends tout parce
c'est traduit
que c'est
ou pas
du tout, mais il y a pas besoin, c'est du québécois, c'est pas.
Oui, il y a des mots, c'est oui, vrai, qui nous sont inconnus.
Mais dans les phrases, ça se passe vraiment très très bien, donc. Ça, c'est vraiment beau donc il y a ce côté québécois qui est merveilleux, qui fait voyager, enfin rien qu'en le lisant. Puis il y a l'attachement de sa famille, donc il vit dans un petit appartement dans une banlieue de Québec. Et pour économiser de l'argent, en fait, il vit avec sa tante, son oncle et d'autres personnes, mais j'ai pas réussi à capter qui c'est. Enfin bref, ils sont très nombreux dans un appartement. Et son premier périple va consister à traverser tout Québec, donc à passer de l'autre bout du monde avec sa mère en prenant trois tramways différents. Enfin, et c'est un périple avec 4 sous en poche. Et voilà, chaque fois qu'il va avoir une vue, il appelle ça les vues, les séances, films, voilà, les séances. Chaque fois, c'est un périple et chaque fois, il lui arrive évidemment quelque chose. Un coup, il se prenne l'orage. Un coup, il part tout seul. Sa mère lui donne l'autorisation de partir. Et évidemment, ben, dans le journaliste, il s'était trompé. La vue n'était pas à 11h, mais à 14h. Mais ce n'est pas grave, il attend quand même. On est quand même sur une personne dans les années 50, donc il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas... Donc on voit d'un côté l'angoisse de la maman et de notre côté le bonheur de l'enfant qui va aller regarder, c'était Blanche-Neige et les Sept Nains en l'occurrence. Et c'est que du bonheur. C'est un livre qui donne la banane en fait, qui vraiment fait rire à voix haute parce que l'accent des... Parce que l'écriture, parce que l'histoire qu'il rencontre... Parce que quand il raconte Cendrillon, il raconte comment il l'a vu deux fois d'affilée. Parce que la première fois, il était subjugué par les petites souris, donc Gus et Jack. Et en fait, il a bloqué sur ces personnages-là, qui sont pourtant des personnages secondaires. Mais lui, avec son œil d'artiste, il les voit vraiment comme des personnages principaux. Puis il a une critique sur le prince charmant qui est fade, qui est mièvre, qui est tout ça. Avec ce côté québécois, et c'est fabuleux. Enfin, les récits sont extraordinaires. Et moi, ça m'a donné qu'une envie, c'est d'essayer de lire. Il a écrit un autre livre. C'était pas sa découverte là du cinéma, mais c'est sa découverte avec les livres. Et j'ai vraiment envie, après donc les vues animées, de lire Un ange cornu avec des ailes de tôle, qui est un livre où il va raconter ses premières découvertes littéraires. Parce que je suis bourrée de curiosité de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il a dû lire et comment il l'a ressenti.
Et là, du coup, tu parles beaucoup de dessins animés, mais est-ce qu'il parle aussi de sa découverte de certains films étant adulte ou...
Oui, voilà, mais c'est ça. Après, La fille du marais, Les visiteurs du soir...
Visiteurs, quel film ?
Du soir. The King and I. Et c'est... après, alors, j'ai pas tout fini, donc j'ai pas... il me manque les deux derniers films qu'il a vus. Mais c'est... voilà. Et chaque fois, puis on sent l'évolution, c'est-à-dire la première émotion, j'allais dire sexuelle, qu'il ressent en regardant un film. Il a 10 ans, il ne comprend absolument pas pourquoi, quand celle qui est censée être une bonne sœur va se baigner, quand elle soulève sa jupe pour aller se baigner, ça lui fait une émotion. Puis il découvre aussi les sentiments des autres, donc le frère de cette bonne sœur qui a des pulsions et qui est obnubilé par le sexe de sa propre sœur. Enfin, et puis lui, il le décrit avec ses yeux d'enfant, mais très... avec du recul, enfin, c'est une analyse très, très profonde qu'il a de tout ça, et c'est fabuleux.
Michel Tremblay est un auteur connu et reconnu.
Oui, hein. Oui, il a écrit beaucoup dans le théâtre, de livres, et au Québec, il est...
à la hauteur de Céline Dion en chanson.
La roue.
C'est pas l'équivalent de Garou, ouais, d'accord, c'est pas encore... Eh oui.
C'est superbe.
Tu avais déjà lu du Michel Tremblay ?
Non, je pense que j'avais jamais lu d'auteur québécois en général. Mais ça me donne envie de... Enfin, je verrai ce que vous allez me raconter, mais moi, j'ai vraiment envie là, de me mettre un peu sur le Québec. J'étais très axée pays de l'Est. Là, je crois que je vais repartir au Québec.
Ok. Quelle maison d'édition ?
C'est chez Babel.
Chez Babel.
Actes Sud. Voilà, Actes Sud. Du coup, c'est vrai qu'Actes Sud édite beaucoup... Ah oui, ouais, on a aussi une info. Sud aussi. Actes Sud édite beaucoup de livres québécois et canadiens.
On va en parler, Eric. T'inquiète pas.
Parce qu'ils sont...
Toi aussi, t'as demandé.
Oui. Il envoie des messages. Il m'a dit, est-ce que tu peux parler de ma chronique jardinage de l'Oz Actuali, de la dernière émission ? Donc, j'en glisse un mot. N'hésitez pas à l'écouter, c'est sur les scènes de glace, c'est excellent. Vas-y, Louise.
Et donc, oui, Actes Sud est en partenariat avec une maison d'édition québécoise qui s'appelle Léméac. Et du coup, ils éditent beaucoup de choses québécoises et canadiennes. Donc, voilà. Et donc, notre nouvelle ministre de la Culture était la directrice jusqu'à hier d'Actes Sud. La fille du fondateur d'Actes Sud, Hubert Nissen. Et donc, bienvenue à Françoise Nissen,
à la culture.
À la culture,
très bon
je pense
choix.
Qu'elle va faire des bonnes choses.
Oui, c'est une très bonne personne pour ce poste. Ok, merci Valérie.
Michel Tremblay, les vues animées. Des petits récits, c'est très court à lire et ça donne la banane, quoi. C'est vraiment.
Tu pourrais
c'est...
nous en lire un petit extrait, du coup
Oui. Alors, j'avais pas forcément sélectionné. Ce qui serait rigolo,
une
c'est
conteuse
que je
qui lit un conteur.
Un passage, voilà. Maille en fer, moué. J'ai pas le droit de le déranger. Un gérant de théâtre, c'est fait pour être dérangé, non? Puis ça doit être même pas vrai qu'il y a un numéro personnel. Allô, monsieur Minetti, ici madame Tremblay de la rue Fabre. Écoutez, mon garçon de 10 ans. Ah, vous êtes déjà averti? C'est vrai que je parle vite, hein, mais êtes-vous allé voir s'il était là? Voilà, c'est.
Oui,
là, c'est la mère qui a perdu son fils, qui elle ne le trouve plus, donc elle est en colère au téléphone. Mais c'est. Les dialogues sont en québécois, donc ça peut surprendre parce qu'on a l'impression que c'est bourré de fautes, mais c'est du québécois. Et après, tout le côté narratif, par contre, est écrit en cette bonne vieille langue française. Et ça se passe très bien. Ça se marie vraiment très, très bien.
Super.
Voilà. Super. Allez, Louise, prends la suite.
Alors, j'ai un petit mot d'Elga. Elga qui n'est pas là, du coup, mais qui a lu un livre quand même. Donc, du coup, comme la dernière fois avec toi, Pauline, on va lire son petit mot. Elle a lu un livre édité chez Folio de Marie-Renée Lavoie, qui est une auteure donc, canadienne, québécoise aussi. Oui, québécoise, on dit. Hein. Québécoise. La petite et le vieux, ça s'appelle. Donc elle nous dit que pas d'inquiétude, donc à la fin il y a un glossaire parce qu'il y a beaucoup de mots aussi en québécois. Et si on n'est pas bilingue, bah, on peut arriver à s'y retrouver. Mais grosso modo, la plupart des mots utilisés en québécois dans le livre sont des insultes, donc on comprend quand même le sens profond. Voilà, donc l'histoire tourne autour d'une petite fille de 8 ans qui s'appelle Hélène, mais qui préférerait s'appeler Jo parce qu'elle est fan de Lady Oscar et veut lui ressembler pour se travestir en homme et sauver la reine Marie-Antoinette. C'est quand même plus badass que vendre des journaux comme elle. Donc naturellement, Folio a raté sa 4e de couverture. On a l'impression qu'il y aura uniquement l'histoire d'amitié entre Hélène et Monsieur Roger, qui est un octogénaire alcoolique et seul. Mais en fait, on découvre aussi toute une flopée de personnages qui gravitent autour de cette amitié. Donc il y a la maman d'Hélène qui règle tous ses problèmes par une seule et même phrase, c'est toute. Voilà, son papa qui déprime dans son boulot et a tendance à combler ça par l'alcool. Sa grande sœur qui critique tout le temps. Et deux petites sœurs, Margot, fan de talons hauts, et Catherine, dite Tipou, qui laisse présager une forte personnalité comme le reste de la famille. Évidemment, Monsieur Roger prend une place importante dans le récit et nous offre un personnage haut en couleur, accro à la bière et aux insultes, donc les fameuses insultes en québécois. Il vit seul depuis la mort de sa femme, ce monsieur. Et il arrive, en fait, malgré son fort caractère un peu bougon et un peu extrême, il arrive à se faire accepter dans l'immeuble et dans la famille d'Hélène parce qu'il connaît, en fait, des recettes de grand-mère. C'est un peu un espèce de guérisseur. Par exemple, il y a une petite fille qui avale de la Javel. Et ben, on va pas chercher le docteur, on va chercher Monsieur Roger, quoi, pour savoir ce qu'il faut faire. Donc Hélène et lui deviennent amis très vite dans le roman et ils se chamaillent tout le temps, même si ils s'adorent. Donc il y a beaucoup d'autres personnages qui sont moins creusés, mais qui sont tout aussi fous à leur manière et qui égayent beaucoup le roman. Donc finalement, la petite Hélène, elle est comme tous les enfants. Elle rêve, elle se prend pour une héroïne qui va sauver le monde. Et de façon plus réduite, elle fait tout pour aider sa famille en mettant l'argent qu'elle gagne dans le porte-monnaie de sa mère pour la rendre un peu plus heureuse. Mais peu à peu, ce monde où tout est possible va s'effriter et se voir emprisonné par la réalité moins fun à travers la mort de certains personnages. Oh. Le peu d'argent qui restreint pas mal de choses ou encore l'alcoolisme. Grand fléau québécois. Quoi qu'il en soit, Hélène Jo est une gamine attachante qui a plein de théories sur plein de choses, souvent très drôles, qui refuse de voir ses seins pousser et qui est persuadée que les ados qui font des crises d'adolescence ont le loisir de le faire uniquement parce que leurs parents ont le temps de s'occuper d'eux. Elle sait déjà qu'elle ne fera aucune crise existentielle en grandissant. Ses parents ont autre chose à faire que de gérer ça. Donc Elga a trouvé que c'était un roman très chouette, qui fait passer un bon moment, amusant souvent. Et même si Hélène comprend peu à peu que tout n'est pas rose dans la vie, ça reste une lecture optimiste. Comme si on nous répétait tout au long du roman, ça va aller. Donc c'est une belle découverte. Voilà.
Malgré une 4e de couverture.
Une 4e de couverture ratée, selon Elga, encore une fois.
Mais il faudrait qu'elle soit critique de 4e de couverture. Hein.
Oui, je pense.
Il faudrait écrire ce métier.
Il faudrait l'inventer pour elle.
Elga, il va falloir qu'on parle de ta vision des 4e de couverture. Quelque chose à creuser.
Ok, merci Elga, merci Héloïse pour cette présentation. Allez, Popo.
Ouais.
Alors, moi,
Popo, tu n'as qu'un livre ?
Non, j'en ai deux. Voilà, il y en a caché sur la chaise.
D'accord. Ah.
Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est une BD qui s'appelle La Petite Patrie. Le scénario est de Grégoire Normand Grégoire, ou Grégoire Normand, ou le dessin de Julie Rochelot.
Ou Rochelot, Julien.
Là, ça paraît plus évident, peut-être. Oui. Du coup, c'est tiré d'un roman qui a été écrit en 1972 par Claude Jasmin. C'était un roman autobiographique où il parle de son enfance dans un quartier de Montréal. Donc, qui s'appelait pas La Petite Patrie au début, mais son roman a eu tellement de succès, il a été adapté en feuilleton télé, que du coup, ce quartier maintenant est apparemment couramment appelé La Petite Patrie.
Grâce à cet auteur, du coup.
Voilà, grâce à cet auteur et au succès de son roman. Et donc, moi, ce que j'ai lu, c'est une adaptation en BD. Donc, on est en 1938 et on rencontre le petit Claude. Il a 8 ans, il a ses petits copains. Donc, c'est les rois du quartier. Ils font plein de conneries. Ils embêtent tout le monde. Ils se chamaillent. Ils font du hockey. Ils rigolent. Enfin, ils ont des vraies vies de parfaite vie d'enfant complètement insouciant. Claude, ses grands rêves, c'est d'acheter les nouveaux patins à roulettes qu'il y a à vendre chez le vendeur. Il veut se marier avec Micheline.
Claude voilà. Et Micheline.
Donc voilà, on voit vraiment cette petite vie d'enfant, mais on est en 1938 et du coup, le temps avance doucement et chez les grands, la situation, elle est un peu, chez les adultes, la situation, elle est un petit peu différente. On a l'annonce du début de la guerre, alors au début, ils se sentent pas forcément concernés, pas forcément engagés. Petit à petit, en fait, les Britanniques commencent à mobiliser les Québécois, d'abord les célibataires. Donc il y a des épisodes assez étonnants, mais alors, Il y a un peu une histoire commune dans mes deux bouquins et je sais plus dans lequel j'ai lu que si c'est dans la BD ou dans,
alors ça, c'est énorme.
Dans le livre, que suite à justement à la mobilisation des célibataires, il y a eu de grandes vagues de mariages, des mariages en groupe, des trucs impressionnants, plusieurs centaines de couples. Il faudrait que je regarde, je sais plus duquel ça vient, mais voilà. Donc c'est vraiment quelque chose, une grosse mobilisation des Québécois. Et puis il y a aussi la petite sœur de Claude, Rita, qui est un peu malade. Donc voilà, mais tout ça, ça se passe un peu en arrière-plan. La vie est de plus en plus sombre chez les adultes. Et on le retrouve aussi dans le dessin, en fait, au début, qui est très clair, joyeux. Et puis petit à petit, le ton s'assombrit. Mais les enfants restent complètement insouciants. Ils continuent à vivre leur vie d'enfant. Et tout ça, ça se vit un peu derrière. Donc voilà, c'est une vision de la société pour les enfants et voilà, un peu cachée la vie des adultes. Alors ce que j'ai aimé, c'est de voir un peu ce contraste entre l'enfant et l'adulte. Ce que j'ai trouvé dommage, je sais pas s'ils ont fait tenir tout le roman dans la BD, je pense, parce que ça se finit. Et du coup, c'était un peu trop court. Je suis un peu restée sur ma faim. Il y a des choses, j'aurais aimé qu'elles prennent plus de temps, peut-être pour être plus touchée, pour plus ressentir cet aspect de vie d'enfant, vie d'adulte, et que à un moment, ça va être amené à se confronter, ces deux choses-là. Et on n'a pas le temps de le ressentir et de le voir venir. Et c'est dommage parce que c'est bien écrit, les dessins sont assez jolis. J'aime les couleurs qui sont un peu, c'est dans les sépias, ça évolue au fil du bouquin, vous me direz. Mais
il y a quand même, c'est quand même en bichromie la plupart du temps.
Ouais. Donc très chouette, mais du coup j'ai envie de lire le roman pour en savoir un petit peu plus.
Et le roman qui s'appelle donc La Petite Patrie aussi.
Oui, aussi, ouais. Okay. Ouais.
Et c'est sûr que ça doit être un peu plus développé sans
doute. Et oui, et on le ressent un peu dans la BD. Je pense que c'était un hommage et qui s'adresse peut-être plus à ceux qui connaissent déjà peut-être le roman. Mais bon, c'est très très beau et c'est chouette quand même parce qu'on découvre là aussi un peu quelques insultes d'enfants. Voilà, il y a des aspects rigolos, des vieux métiers, de chiffonnier, celui qui va racheter les guenilles chez les gens pour les revendre derrière. Il y a des petits aspects sympas et qui sont chouettes à voir. Les jeux d'enfants au Québec, qui sont faire du hockey sur glace, quelque chose qu'on connaît pas nous du tout ici. C'est assez sympa.
Ouais. Donc c'est un peu historique en fait.
Aussi, ouais. Oui, c'est un vrai témoignage de la vie des quartiers de cette époque. Ça s'est reconnu à la fois pour le roman et du coup je suppose pour la BD qui s'inspire très largement du roman.
Et du coup on pourrait le lire à partir de quel âge, pour les ados ou...
Oui, je pense même les jeunes ados parce que...
pense qu'ils verraient autre chose que ce qu'un adulte va voir. On peut avoir une lecture d'adulte où on voit un peu, bah voilà, ce que je disais, le contraste vie d'adulte, vie d'enfant. Mais je pense qu'un, même un jeune ado en quatrième, troisième, il serait, il y a pas de souci, il peut se lancer, il va ressentir quelque chose, il va, oui.
Ouais.
C'est vrai que quand on parle de Deuxième Guerre mondiale, on pense pas forcément au Canada, qui a quand même payé un lourd tribut. On en a parlé dernièrement avec la venue du Premier ministre canadien en France pour les commémorations, mais ils ont payé un lourd tribut.
Mais le Canada, ils se sont engagés même avant les États-Unis, du coup, sur la Seconde Guerre mondiale. C'était en même temps que l'Angleterre.
Avec l'Angleterre.
Ok, mais c'est une belle...
C'est une très belle BD.
Ouais. C'est un beau principe de le faire voir par la vision d'enfant qui reste au pays. Super.
Et du coup, la maison d'édition, c'est la Pastèque, non ?
Oui, c'est ça, ouais. La Pastèque.
C'est une maison d'édition, du coup, qui édite aussi beaucoup de BD et de romans graphiques québécois.
D'accord.
Voilà.
Super, merci Popo. Allez, je vais parler de mon super livre que j'ai. Alors, ça m'étonne parce que on avait fait un jeu il y a 2 semaines où le gagnant choisissait en premier, etc. Popo qui avait perdu, qui avait choisi en dernier. Mmh. Et cette bande dessinée m'a échappé. Je me suis retrouvé avec des romans de 800 pages, moi, en ayant gagné.
Comme
en ayant
le jeu. Photo, arrête. Calimero.
Donc, je n'ai pas lu mon roman de 800 pages.
Ah, mais c'est vrai, t'as un roman photo, là. Donc.
Non, oui, voilà, parce que j'avais prévu le coup. J'avais choisi quand même un
roman
deuxième livre.
Roman qui t'aurait plu.
En plus, il paraissait sympa. J'ai lu les 3 premières page hier, je me suis dit, c'est 23h, tu auras du mal à les finir, ça ne sert à rien. Donc du coup, je me suis attaché à lire ce livre qui s'appelle « Une dynamique créative Québec ». Je vous le fais passer si vous voulez le feuilleter. Je suppose qu'Éloïse, tu le connais, mais peut-être pas Valérie ni Popo. C'est bien quand je parle, les gens mangent parce qu'ils... Vous savez que je vais parler, monopoliser la parole et que vous avez temps de vous restaurer.
Et que ta chronique sera tellement complète qu'on n'aura rien à en rajouter.
Alors
ni de questions à te poser.
Je tombe sur la page de ton livre pour que tu m'aimes encore. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau.
Mais bien
c'est
sûr
un super
c'est Céline
Dion. D'accord. Parce qu'il y a Isabelle Boulay. Je ne suis pas très fort en variété québécoise. Alors, un mot tout d'abord sur l'auteur pour expliquer ce livre, Solange Deloisy, qui a travaillé près de 15 ans pour le Club Livre Québec Loisirs, d'où son amour pour la littérature et particulièrement les auteurs québécois. Francis Poche, lui, il est photographe depuis plus de 30 ans. Oui, il a un nom assez drôle, c'est vrai. J'ai voulu faire un jeu de mots avec Poche, Valérie, et je me suis retenu, je dis non.
Oui, parce que c'est, moi, je dis pas Poche, je dis Pochon.
Pochon, tu dis ? Ah, c'est ton côté véronèse, ça.
C'est ça.
Francis Poche, photographe depuis plus de 30 ans. Il a séjourné 4 ans au Québec, d'où il a sorti une série de photographies qu'on retrouve dans ce livre. C'est des paysages la plupart du temps et quelques portraits. Alors, j'ai pas vraiment été fan des photographies. Je trouve la lumière, la couleur un peu vieillotte. Alors, peut-être c'est fait exprès, je sais pas. On a un peu l'impression de photographies des années 80. Ça m'a pas sublimé, en fait. Concernant les textes, c'est un livre de 160 pages, c'est un abécédaire d'artistes québécois. Alors pour être plus précis, d'après l'auteur qui n'est pas tout à fait d'accord avec moi, alors c'est l'auteur, je lui donne raison, elle nous dit « Il ne s'agit ni d'un dictionnaire des artistes québécois, ni d'un guide touristique du Québec, mais les impressions affectueuses et humoristiques et les choix très, très personnels d'une Française inspirée par ses rencontres, ses amitiés, ses lectures ». Et ses goûts. Donc on retrouve entre les photographies des petites pages courtes, c'est de 1 à 3 pages sur des poètes, des cinéastes, des chanteurs, des écrivains.
Et Céline Dion
et Isabelle Boulay.
Et Diane Dufresne quand même.
Et Robert Charlebois. Et le Cirque du Soleil, on parle aussi de la série télévisée Un gars, une fille qui a été créée au Québec, mais après on parle aussi de Denis Arcand, de Jean-Paul Riopel, d'autres poètes et écrivains. Ce livre, en plus de ça, de présenter donc ces auteurs-là, nous permet de parler d'enjeux actuels de la société québécoise. On survole, hein, c'est assez succinct, c'est 3-4 pages. Les textes pour parler de ces enjeux, on retrouve des textes de PDG d'entreprises, notamment d'Ubisoft qui fait des jeux vidéo, de philosophes, de conservateurs de musées, d'anciens secrétaires d'État français chargés de la coopération et de la francophonie, d'anciens ministres du Québec. Donc du coup, on va parler aussi, on va survoler les thèmes sur l'immigration, la place dans le monde entre Europe et Amérique, l'attachement du Québec à cette culture francophone, mais en étant à côté des États-Unis et appelé par par toute cette société de consommation américaine, donc de la mondialisation, du positionnement du Québec dans le divertissement du futur, donc qui n'a aucun rapport avec le reste. C'est vraiment des thèmes choisis par l'auteur qui lui tiennent à cœur. Donc c'est assez subjectif, mais on découvre des auteurs, des poètes vraiment intéressants. C'est un livre surtout, j'imagine, pour les amoureux du Québec et de la culture, pour les gens qui sont allés, qui veulent un peu se retrouver et en savoir plus sur ce pays-là.
Oui, parce qu'après, c'est étonnant. C'est vrai que tu dis qu'il y a toute une liste en fait, d'artistes. Pardon.
Ce n'est rien, vas-y.
Il y a toute une liste d'artistes et de créateurs, etc. Et en même temps, les photos sont des photos de paysages. Du coup, est-ce que, c'est étonnant, en fait, je trouve.
Je pense qu'on le prend à part. On lit les textes et après, on retrouve des photos pour fondre un peu plus dans ce thème Québec, pour y être vraiment. Valérie veut intervenir, je crois.
Pardon. Non, pas forcément. J'étais en train de lire une page sur Michel Tremblay, l'homme qui a écrit le livre dont je vous ai parlé juste avant.
Vas-y. Qu'est-ce qu'on apprend ?
Non, bah alors c'est
une petite biographie. On parle de cet auteur. Et à côté, normalement, il y a un texte.
C'est ça. Là, il met des extraits d'une des pièces de théâtre, là, Les Belles Sœurs, qui a été une des pièces de théâtre qu'il a fait connaître et reconnaître. Enfin, c'est vraiment la pièce qu'il a transportée comme auteur de théâtre. Et là, j'avoue que, par rapport à mon livre, un décodeur ne serait pas malvenu pour comprendre le Québécois. Par contre, la photo qui illustre à côté n'est pas forcément effectivement flagrante par rapport au texte.
Voilà, il n'y a pas de thème. C'est vraiment, on a superposé les deux, comme ça on peut passer un moment à regarder les photos et après à chercher les auteurs ou les thèmes qui nous intéressent. Mais on voit vraiment que c'est l'amour de cet auteur pour ses rencontres pendant ses 15 ans maison d'édition. Et voilà, on voit qu'elle s'est fait plaisir avant toute chose. Ouais. Donc déjà, bravo.
Mais est-ce qu'elle nous fait plaisir nous
On apprend des choses aussi, donc oui, mais encore une fois, faut vraiment être attiré par le Québec pour essayer de retrouver cette culture, ces auteurs, ces thèmes-là, sur ce livre.
Quelqu'un qui aurait été au Québec il y a quelques années, à mon avis, serait heureux de le recevoir parce que ça tu peux avoir entendu parler de certaines personnes, lire un peu le parler québécois et revoir les images telles qu'on les a souvent en mémoire quand on y était quand on n'y est pas retourné depuis très longtemps.
Voilà, ça fait partie des livres cadeaux qu'on dit toujours, des beaux livres. Bien que, encore une fois, je mets un petit bémol sur les photographies, sur la couleur, sur l'image, sur la lumière.
Oui, mais tu vois, si ça fait longtemps que tu n'y as pas été, tu revois les images telles que tu les avais dans ta tête.
C'est ça.
Voilà, c'est ça l'astuce.
Aucun de vous n'a été au Québec.
Non, moi j'y étais.
C'est vrai. Mais raconte-nous.
J'ai fait une escale parce qu'en fait, je partais étudier dans l'Ontario et donc j'ai fait escale au Québec à l'aller et escale au Québec au retour.
Mais on ne connaît pas cette facette de ta vie.
Elle est énorme.
Pleine de surprises.
Et le lycée.
On te laisse le choix, Valérie. On veut une anecdote. Donc, ou tu l'as fait pendant la pause musicale en off, ou tu nous la donnes maintenant et on fait la pause musicale après.
Je vous la raconte. Elle est assez courte, mais c'était la pire aventure de ma vie à l'Ontario. J'habitais donc chez des gens adorables, mais la fille de ma famille d'accueil
était kleptomane. Ah, je la connais, génial.
Elle était kleptomane et en fait, moi je suis originaire de la campagne profonde et donc un soir, on a été dans un grand supermarché. Faut savoir que moi j'étais en seconde, mais j'avais un an d'avance, donc j'étais toute petite quand je suis partie finalement toute seule là-bas. Et en fait, pendant qu'on était dans le supermarché, elle me bourrait mon sac à dos de petits trucs qu'elle piquait, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Et c'est à un moment donné, elle me dit « Oh, viens, on va aux toilettes, je te garde ton sac ». Est arrivée une vigile, forcément, qu'il avait attrapée à la caméra. On s'est retrouvés plaqués au sol, embarqués par la police. Quand tu es très
la police montée
c'était en Ontario, c'est
s'il te plaît, Louise.
Et puis, je te rappelle que j'avais que 15 ans. Et on s'est retrouvés comme ça, attrapés par la police. Et c'est assez déstabilisant quand on n'est pas dans son pays, qu'on ne parle pas la langue, que c'est la première fois qu'on a affaire à la police, autre que pour un contrôle de champignons dans les bois. Donc ça avait été...
Et les parents n'étaient pas là.
Et en fait, la mère était là, mais du coup, elle était en train de faire ses courses et elle nous cherchait partout. Et la police a appelé le père qui ne parlait pas anglais, puisque c'était des immigrés chinois chez qui j'habitais. Donc ça avait été une super aventure.
Et elle était kleptomane, c'était reconnu.
Qu'après, ses parents ont fouillé sa chambre, ils ont découvert des choses hallucinantes. Mais très douée, parce que sur la vidéo qu'ils nous ont montrée, on me voit en train de regarder les produits que je connaissais pas. Et on la voyait mettre dans mon sac. Voilà.
Du coup, ils ont su que tu étais pour rien ou ils
oui,
se sont
oui,
dit...
Oui, mais par contre, j'avais une interdiction de rentrer dans toutes les, tous les magasins, malgré tout, de cette marque pendant 10 ans, je crois. Donc
c'est plus valable maintenant, c'est bon.
Tu me rappelles même plus quelle était cette...
Il faut que tu y retournes et que tu ailles voler un truc et que tu reviennes avec. C'est une chaîne qui existe en France ou pas du tout ?
Je sais même plus qu'elle... Je pense pas parce que c'était des très, très grandes... Enfin, tout est démentiel. Enfin, là, moi, dans l'Ontario, c'est vraiment le côté américain. Donc, tout était 10 fois plus grand.
Et donc le prénom de cette jeune fille ?
Maggie.
Maggie.
Maggie tout en rose. Voilà. Excellente histoire, voilà. Encore une fois, Valérie, bravo. Allez, on écoute quoi ? Les Hey Babies, c'est ça, Héloïse ?
Oui, les Hey Babies, un groupe féminin québécois.
Allez, c'est parti.
Jeudi passé.
Et finalement, cette chanson était pas assez longue parce qu'on a poursuivi l'histoire de Valérie, qui est très intéressante. Voilà. On verra après oui, à la fin
suffisant.
De l'émission. Ouais, c'est suffisant.
C'est suffisant. Allez-y, il faut le vivre.
Allez. Ok, mais tiens, Valérie, on va te laisser la parole.
C'est vrai, vous voulez que je vous parle d'une histoire qui s'est passée au Québec ?
Ouais. Par contre, Valérie, je vais t'obliger à avoir un casque parce que.
C'est vrai, parce que je parle trop loin du micro. Oui, allez, je me colle au micro. C'est que j'ai peur des maladies qu'il y a. On ne sait pas qui est passé avant.
C'est vrai qu'on ne sait pas qui est passé avant. Ce n'est pas moi, vu que j'ai toujours le même micro.
Ce n'est pas toi.
Je crois que c'est Corentin.
C'est le micro d'Aurélien Lacaze. Non, donc au pire, tu as un peu de whisky encore dessus.
Oui, ça va, ça va. Mais... C'est Aurélien, je le connais bien, c'est comme la famille,
bien,
ça passe.
Ça passe.
Donc ben, moi, c'est une BD aussi, comme Pauline. Et c'est une BD aussi qui est éditée chez Pastèque.
C'est une maison québécoise, hein, Pastèque.
Oui.
C'est pour ça.
Voilà. D'accord. Alors, livre, donc ça s'appelle Paul à Québec. Paul à Québec, en fait, Paul, c'est un personnage donc, qui est issu d'une série de BD du même nom. Ici, donc, Paul est au Québec et c'est un moment de sa vie plus adulte que les autres tomes qui sont parus avant. Donc, Paul vit avec son épouse Lucie et leur fille. Ils sont en train d'acheter une petite maison, leur premier achat. L'auteur donc nous raconte les visites de ces maisons. Donc les visites sont cocasses, c'est très très drôle. Paul il est dessinateur, donc il essaye de se mettre un peu à l'informatique pour se mettre au goût du jour. On vit des situations hilarantes avec la découverte d'internet, de l'informatique où il achète un ordinateur, il faut qu'il revienne après acheter un autre logiciel, après il faut qu'il achète un paralogiciel et ça part en cacahuète. Donc c'est très drôle, c'est très rigolo. Et ben, nos deux amoureux et leur fille se rendent régulièrement à Québec voir le papa de Lucie, sa femme donc, qui est un homme très fédérateur autour de sa famille, avec un caractère très 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 bien trempé. Le problème arrive, Roland, le père, donc, tombe gravement malade. Et donc l'histoire va se concentrer sur la maladie de Roland, le père. Donc tout le début de la BD s'est coulé en année. Et petit à petit, ben, on a la suite de la BD qui va s'écouler au mois le mois avec la maladie de Roland pour arriver à la fin du livre avec lundi, il s'est passé ça, mardi, il s'est passé ça. Et ça devient très, très triste puisqu'on suit, toujours Paul, donc l'histoire de son beau-père qui atteint de cette maladie. Et malgré tout, alors moi qui suis absolument pas du tout attirée par tout ce qui est pathos, bah, je me suis régalée parce que bon, le sujet qui est traité, certes, il est triste, mais il est, j'allais dire, il est de tous les jours.
C'était un peu un livre pour Popo.
Eh bien, même pas, non, parce que tu vois, il n'y avait pas de génocide. Il y avait... bien sûr que si, c'est un livre pour Pauline aussi, mais c'est un livre pour tout le monde.
C'est vrai que tu es tombée sur la guerre quand même.
Il y a quand même la guerre. Moi, je n'ai pas du tout la guerre. Justement, moi, j'ai l'importance des liens entre frères et sœurs. Il y a de l'humour, il y a de la tristesse, mais c'est beau parce que Roland, bah, oui, il est malade, mais il était quand même âgé et il l'aime tellement qu'en fait, on sent qu'il est, qu'il souffre pas, qu'il est suspendu aux forces que lui apporte sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Il y a de la tristesse, il y a la tendresse et puis il y a la vérité aussi de se dire les choses entre frères et sœurs, entre beaux-frères, belles-sœurs. Et voilà, en fait, donc quand on le lit... C'est l'histoire, j'avais pas du tout lu ce qu'il en était. En fait, j'ai lu la BD par légèreté, un soir, vite fait. Bon, à un moment donné, il se pourrait qu'il y ait une petite goutte un peu humide qui soit tombée au coin de mon œil. Il se pourrait. Mais j'ai aussi beaucoup ri, malgré tout. C'est très humain et c'est magnifique. Et ça donne envie de lire les autres histoires de Paul. Mais j'ai un peu peur que, d'en attaquant par Paul à Québec, les autres me touchent moins.
Après, moi, j'en ai lu plusieurs des Paul. Il y a Paul à la campagne, Paul à la pêche, Paul dans le Nord, etc. Mmh. Et c'est vrai que, bon, là, dans Paul à Québec, on retrouve Paul adulte, qui est d'ailleurs l'auteur. Enfin, oui, c'est sa vie, on l'a tous compris. Mais du coup, dans Paul dans le Nord, par exemple, il fait du stop avec ses...
J'avais pas compris, moi.
J'allais y venir, en fait, sur la fin de ma chronique.
C'est l'histoire, en fait, de ses vacances quand il est ado. Paul a les cheveux longs et il fait du stop pour aller dans le Nord. Oui, voilà, ça se suit.
Donc après Paul à Québec, on peut suivre l'histoire de la fin de
son beau-père malade. Oui, tout à fait. C'est vraiment sa vie. Il en écrit régulièrement et on suit toute la vie, en fait, de ce monsieur. Mais raconté, encore une fois, avec effectivement beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse, beaucoup de... Bah, c'est très vif, en fait, comme dessin et comme récit. Et si on aime les récits de vie, si on aime la simplicité de la vie du quotidien, je pense que c'est une série qui peut plaire tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur les dessins ?
Bah, ils sont très simples, mais ils sont chaque
tu
fois...
Tu ouvres une page où il n'y a que du noir et des bulles.
C'est ça.
C'est bon, ça.
Non, ils sont assez simples, mais les émotions passent bien sur les regards, en fait. Il arrive bien à appuyer, mais c'est la force des mots dans les bulles.
C'est noir et blanc.
Ouais, c'est tout. Enfin, c'est jaune et noir même.
Et celui-là, Paul à Québec, a été adapté au cinéma.
Oui. Ouais.
Ah bon.
Ouais, par un film de François Bouvier. Mais je serais curieuse aussi de le voir, mais il a été
de voir la BO.
Ouais déjà.
Bah, j'ai cherché et Isabelle Boulay, le trouve pas en France. Non, enfin, j'ai cherché mais on le trouve pas.
Mais il faut que tu demandes à notre ami Sapin de la Nouvelle Dimension.
Oui, tout à fait. Je pourrais lui demander. Mais bon.
Et c'est vrai que ça donne envie. Il faut savoir que le Paul à Québec, quand il est sorti en 3 mois, c'est 10 000 exemplaires qui ont été vendus. Enfin, c'est vraiment Il a été récompensé à Angoulême, là, Michel donc, Rabagliati, qui est l'auteur.
C'est beaucoup, 10 000 exemplaires.
Bah, c'est pas mal, c'est une idée.
C'est vrai que c'est, voilà, c'est du 9e art, c'est pas un roman, ils annonçaient pas un concours. Enfin, ça montre quand même que l'histoire de Paul, elle plaît. Et outre la simplicité de cette histoire, on retrouve vraiment le Québec, en fait, avec les façons de consommer, le type de magasin, les repas. Et c'est vraiment
oui,
beau.
Oui, parce que c'est vrai, ce qui est drôle, c'est que Paul, il est canadien, et quand il se retrouve avec sa femme québécoise à Québec, il retrouve plein de choses, en fait, très différentes de son quotidien et de ce qu'il connaît, en fait, du Canada. Et ce qui prouve, en fait, c'est vrai que le Canada et le Québec sont quand même très différents. Oui, c'est
super.
Ouais, moi ça m'a emballé et ça, oui,
on le ressent, Valérie.
Ça donne envie d'avoir un peu les autres histoires de Paul. Et même si celui-là est par son sujet de fond qui va être le fil rouge, le papa, donc le grand-père Roland qui est malade, malgré tout, on a une vision même du personnel soignant en soins palliatifs qui est.
On apprend des choses sur le Québec justement par le biais de cette bande dessinée ou non, c'est vraiment centré
sur les routes, sur les restaurants, sur un peu sur les habitudes, sur le. Alors c'est rigolo, la marque des cigarettes.
En quelle année? C'est pas indiqué.
Non, ça pourrait être aujourd'hui.
C'est contemporain.
Ouais, c'est tout à fait contemporain. Et c'est vraiment, on se reconnaît parce que là, en plus, l'âge qu'a Paul aujourd'hui avec sa femme et sa fille, c'est tout à fait nos âges. Enfin, ça pourrait être nous aussi. Donc
c'est dommage que ça ne soit pas en couleur, vu la couverture. Alors, qui est très belle en couleur.
Oui, sauf que la couverture, c'est tout ce que je déteste, en fait. C'est une fausse couverture, messieurs, dames.
Ah, c'est voilà une la vraie fausse couverture. Allô, Helga, on a un problème.
C'est une couverture additionnelle pour la sortie du film, justement. Voilà. Ouais.
Et d'accord. Donc, c'est vrai que sous la couverture, on voit... Donc,
mais elle est très belle, cette couverture. Pourquoi tu n'aimes pas?
Je ne supporte pas quand on rajoute des trucs
sur
les couvertures.
Moi non plus. D'accord, c'est la forme.
Ah, mais c'est rédhibitoire. D'accord. Je veux un livre avec un bandeau. Même s'il y a marqué prix Goncourt, tu dois le lire. Non.
Oui,
c'est
moi aussi, je l'enlève. Voilà. Je suis comme toi. Tu as raison.
Non, la vraie couverture, c'est celle-ci qui
est violette.
Bichromie. Violet.
Trichromie.
Ah oui, violet.
Non, le blanc n'est pas une couleur.
Qui est en plus qu'il y a dans la BD, que ta couverture rajoutée.
Et qui est vraiment, qui ressemble vraiment aussi aux couvertures des autres.
Oui, on voit un Paul contemplatif, regardé par une balustrade, la forêt.
C'est un peu Tintin, Paul. Hein.
Oh non,
oui,
il est
un petit côté,
un peu plus
de
un caractère un peu plus.
Non, mais physiquement.
Ah. Oui, il a la tête ronde, quoi.
Et il a une houppette.
On lui ressemble.
Il a la méchouille. Ouais.
Comme dire nos jingles, et une houppette, une tête ronde. J'étais sûr qu'on allait le reconnaître d'histoire en histoire.
C'est ça. Là, c'est Paul.
Allez, c'est ça. Merci, Valérie.
Avec plaisir.
Merci.
Allez, Louise.
Alors moi, je vais vous parler d'un très beau livre, quasiment un coup de cœur, qui s'appelle « Il pleuvait des oiseaux » de Jaceline Saussier, qui est une auteure québécoise, et c'est son 4e roman, mais je crois que c'est le premier en fait publié en France, qui nous est parvenu en France. Donc voilà, donc « Il pleuvait des oiseaux », c'est l'histoire d'une photographe journaliste qui s'intéresse aux problèmes et à l'histoire de ce phénomène qui s'appelle les grands feux au Canada, que vous connaissez peut-être.
Non.
C'est-à-dire que le Canada est, je pense, à 90% recouvert d'arbres et de forêts.
Pour l'instant.
Pour l'instant, oui, effectivement, c'est un autre problème.
Voilà.
Mais il y a ce phénomène, en fait, depuis des décennies, c'est les grands feux. C'est-à-dire que dès que ça s'enflamme l'été, dès qu'il fait un peu trop chaud, il y a... Tout est bouffé,
c'est comme
ravagé
la Californie,
en fait
comme,
par ces feux. Et donc voilà, et cette journaliste s'intéresse à ce problème-là, mais au début du siècle, c'est-à-dire quand il n'y avait pas encore les Canadairs, quand il n'y avait pas les moyens, les pompiers, etc. Quand les gens étaient seuls face à ce terrible problème, en fait. Et c'était des véritables carnages et des véritables tragédies.
Mais ça doit être rapide comme livre, parce qu'à l'époque, ça brûlait, il partait, parce que sinon, il était mort.
Non, mais elle s'intéresse, en fait, elle vit à l'heure actuelle, aujourd'hui, et elle s'intéresse aux survivants. Elle va interroger les survivants des grands feux.
D'accord.
Donc voilà, donc elle adore les personnes âgées, elle les prend en photo, elle les interroge, elelle prend le temps, en fait, de leur demander ce qui s'est passé, etc. Et donc là, on la retrouve, notre photographe, avec toujours cette quête de témoignage. On la retrouve aller chercher un certain Edward ou Ed, ou on ne sait pas trop comment il s'appelle, qui est un ermite, qui est le survivant du grand feu de Matthewson de 1918. dont tout le monde lui a parlé, enfin tous les témoignages en fait de ce feu parlent de ce monsieur, de cet ado en fait qui a survécu. Et là, enfin, elle va le rencontrer, elle va en forêt, elle a trouvé sa cabane, elle a réussi à le dénicher. Et donc elle y va et elle tombe en fait sur deux octogénaires. Et Ed vient de mourir, il est mort la semaine dernière. Voilà, donc elle peut pas interroger Ed sur les grands feux. Mais elle se retrouve en fait face à cette petite communauté de personnes âgées qui vit au milieu de la forêt, des ermites en fait, avec leurs chiens. Et elle va entamer en fait une amitié avec ces gens, avec ces personnes âgées. Et donc c'est toute cette histoire-là. Et c'est absolument génial. Vraiment, c'est... Et elle parle des grands feux, évidemment, mais elle parle aussi de ces gens. Bah, pourquoi est-ce qu'on s'isole? Pourquoi est-ce qu'on a envie d'être coupé du monde, des fois, quand on est âgé? Parce que c'est vrai que le système de santé au Canada n'est pas non plus très... Enfin, très... C'est pas comme en France, quoi. C'est pas très avantageux.
C'est un documentaire?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Non, non, c'est un roman.
C'est un roman.
On n'en a pas déjà parlé dans l'émission. Je l'ai lu. Et...
Ah merde!
Peut-être l'émission sur l'Amérique. Je vois pas quel thème ça pourrait être. Et j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé. Oui. Ou alors seulement je l'ai lu. Mais
Mince.
Il me semble que ça m'avait touché le. Voilà, bah, ces petits vieux, notamment, oui. Dans la forêt, là. Mmh.
Alors ça, il faut que tu me le dises avant et que je balance un jingle coup de gueule.
Mais parce que je suis pas sûre qu'on en ait parlé, en fait.
Non.
Je me souviens d'avoir lu et...
Je ne crois pas qu'on en ait parlé. Enfin, moi, j'en ai pas le souvenir.
Moi, j'avais parlé une fois d'un livre au Canada qui me tenait à cœur, que t'avais, Héloïse, à la lorgnette, mais je crois il y a 3 ou 4 ans, qui était Brut, qui était le documentaire qui retraçait l'histoire de Fort McMoney, qui était un jeu interactif qui reprenait l'histoire d'une ville qui s'appelle Fort McMurray, où c'est, en fait, il parle des sables bitumineux qu'il y a donc, dans le nord canadien, qui est un désastre écologique, en fait, là où toutes les compagnies pétrolières vont nettoyer en fait les sables pour enlever le pétrole. Et c'est un gros désastre écologique. C'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure c'est recouvert par les arbres, j'ai dit pas pour longtemps, parce ils avaient tiré un livre de ça et on en avait parlé sur les livres.
Oui, on en avait parlé effectivement. Voilà. Ouais. Mais il pleuvait des oiseaux, alors tu l'avais peut-être lu, mais tu en avais peut-être
personnellement et pas parlé dans l'émission, mais ça m'avait touchée aussi. Voilà, j'avais trouvé que tous les personnages étaient très attachants.
Mais tu vas pouvoir intervenir sur ce livre. Très bien.
Eh ben oui, je suis intervenue.
Et du coup, le titre qui semble assez poétique.
C'était la minute de popo. Il faudrait une jingle minute de popo.
Le titre, en fait, il pleuvait des oiseaux. Moi, j'ai trouvé ça assez poétique et assez charmant, en fait. Mais finalement, ça vient d'un témoignage d'une personne qui parle d'un grand feu et donc il pleuvait des oiseaux. Bah, c'est-à-dire que le feu faisait pleuvoir les oiseaux. Donc, c'est assez sombre et en même temps, c'est très beau.
Et cette communauté parle du feu qu'elle recherchait au départ, là. Je ne sais plus à quel endroit tu es.
Le feu de Mathewson de 1918.
Et elle a pu avoir des
informations sur le survivant qui était Ed, grâce à ses amis en fait qui vivaient avec lui.
Mais ses amis ne l'ont pas vécu ce feu.
Non, ils l'ont pas vécu.
Et ils ont pu lui parler d'autres feux ou pas?
Non. Ils n'ont pas vécu de feu. Et leur ami d'ailleurs ne leur en a pas parlé. Mais en fait, Ed a laissé presque 200 tableaux qu'il a peints en fait sur le grand feu, sur son expérience. Et donc elle va les analyser avec l'aide de ses compagnons et elle va décortiquer en fait ce qui s'est passé dans la vie de ce monsieur, dans le seul survivant du feu de Mathewson. Et quand on cherche sur internet, il y a effectivement des témoignages. Je pense que l'auteur est allé prendre des vrais témoignages de vrais survivants. Et sur Radio, c'est Radio Québec, je crois, tout simplement, il y a des témoignages en fait des survivants des feux.
D'accord.
Et c'est très intéressant et c'est vraiment touchant parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on connaît avec autant d'intensité ici, ce problème du feu. Parce que voilà, quand il y a des gens qui se cachent dans des rivières, dans des fleuves, etc., et qui se retrouvent pétrifiés dans la boue tellement tout a été asséché, enfin, c'est des choses, comment survivre à quelque chose d'une telle intensité, quoi.
Ça semble presque irréaliste finalement,
oui, exactement.
quand tu en parles. Ouais.
Alors, la question importante. Ce livre est chez Folio. Comment est la quatrième de couverture?
Moi, je la trouve pas mal. Franchement, c'est un bon résumé.
Ah. Ok, on prêtera le livre à Helga pour la prochaine émission.
pour la critique, il vaut mieux demander à Helga.
Ok, merci Héloïse. Popo.
Oui.
La minute de Popo.
Faut vraiment trouver un jingle parce qu'on a fait un blanc.
Jingle,
là.
Ouais.
Alors moi, donc on l'a redit tout à l'heure, j'avais choisi mon bouquin au dernier et je me suis retrouvée avec un livre qui s'appelait « Ces impossibles français ».
Que personne ne voulait bizarrement.
Mmh. Voilà, et effectivement, ça ne m'emballait pas non plus. L'idée, j'ai pas lu la quatrième de couverture, mais le titre, je me disais encore un truc où ils vont nous dire qu'on mange des escargots, des cuisses de grenouilles, qu'on pue, enfin bref.
qu'on se lave pas.
Ça ne m'emballait pas du tout. Et bah, finalement, très bonne surprise parce que bah, déjà l'auteur, donc Louis-Bernard Robitaille, c'est un Québécois qui est depuis plus de 30 ans correspondant à Paris pour le quotidien La Presse de Montréal. Donc, il sait de quoi il parle.
Elle écrit ses chroniques sur des devoirs d'enfants.
sur des devoirs...
Ce
sur...
n'est pas beau.
Thibaut du collège,
des
si
vieux
tu cherches
Thibaut,
ton devoir...
si tu cherches ta note, tu l'auras voilà. Peut-être la semaine prochaine.
Il y a un compte rendu de lecture dessus.
Thibaut lit Midi Libre.
Oui, ouais. À 1,10€.
Ouais, c'est ça.
26 pages.
Je suis perdue dans ma chronique.
Non, pardon. Les Français, ils puent.
Non, je suis pas vraiment perdue.
Et c'était une bonne surprise finalement, ouais. Car l'auteur.
Ouais, bah, parce que l'auteur, il sait, voilà, il sait de quoi il parle. Bon, en fait, ce qu'il va faire, c'est pas que parler des Français et de la France, il va aussi comparer avec les Nord-Américains. C'est assez général, hein, États-Unis, Canada, voilà, c'est. Et donc voilà, il va faire des comparaisons, par exemple parler d'argent. Bon ben, ce qu'il dit, c'est qu'aux États-Unis, c'est évident. Tu vas voir quelqu'un, tu vas chez quelqu'un manger. Il dit ouais, ma maison elle m'a coûté ci, ma bagnole elle m'a coûté ça. Enfin c'est très voilà, c'est très très mis en avant. Alors qu'en France, personne sait le salaire de personne. C'est vraiment très tabou l'argent. Il parle des scandales politico-financiers. Alors, ça le fait vachement rire parce que en fait, il parle du fait que c'est, il considère qu'il y a énormément de détournements, mais qu'on en parle que si c'est des détournements d'argent colossaux. Mais on se pose même pas la question de tout ce qui est payé avec l'argent du contribuable. Et puis alors, on trouve ça merveilleux quand on dit que De Gaulle payait son électricité et son eau. Ah bah c'est incroyable, c'était un homme d'État fantastique. Enfin, voilà, c'est très rigolo. Il a un ton super. Voilà, c'est un portrait un peu moqueur sur le fonctionnement de la société, sur les mœurs de la société française. Et on ressent vraiment le côté journaliste parce que c'est ultra documenté. Il y a énormément de citations. Enfin, c'est hyper riche. Bah, c'est très journalistique. Donc, on a envie presque de le relire pour saisir un peu toutes ces petites choses qu'on n'aurait pas attrapées, qu'on aurait loupées parce que c'est bourré d'informations. Et ce qui est très chouette, c'est parce que, bon, des fois, c'est cinglant, la critique, notamment, je sais pas, moi, je pense sur les lois. Alors, il a une citation super qui dit que les lois existent en France à titre indicatif et qu'elles ne touchent qu'il y a des intouchables. Alors, il cite carrément, il parle de la FNSEA, il parle des étudiants, enfin, voilà, il est des fois, il rentre vraiment dedans. Mais finalement, alors peut-être, moi, j'ai pas été concernée directement, alors je me suis pas sentie agressée, mais il a un ton tellement, voilà, il a de l'humour, il est plutôt chaleureux, on sent pas ni méchanceté, ni, c'est pas une critique pour détruire la société, c'est juste, voilà, il voit l'aspect, des fois, assez humoristique de la société française, mais il le fait aussi pour d'autres pays, c'est-à-dire qu'il compare souvent, donc, et voilà. Et il a un ton tellement sympathique que finalement, on se sent pas de méchanceté dans son ton, on sent qu'au contraire, je pense qu'il aime la France et que c'est un pays dont il est curieux, qu'il fait sourire et qu'il aime la personnalité des Français parce que elle est différente de celle des Nord-Américains, mais aussi de celle des Italiens, des Allemands, que finalement on a chacun notre petit côté, voilà, on a notre petit caractère. Et du coup, voilà, j'ai appris plein de choses, c'était amusant et c'était aussi sérieux, et donc bonne surprise, surtout voilà, vu ce à quoi je m'attendais et ce que j'avais pu déjà lire dans ce genre de bouquin, voilà. Plutôt sympa.
Oui, il ne parle pas de cuisses de grenouilles et voilà. D'escargots.
Il parle évidemment des repas interminables, tout ça, mais
oui,
toujours
mais ça,
avec...
Oui, c'est vrai que c'est une de nos caractéristiques.
Voilà, ouais. Et on ne se rend pas compte à quel point ça nous fait réaliser des côtés... Moi, je ne me rendais pas compte que c'était vraiment, entre guillemets, unique, j'exagère peut-être, mais que c'était une spécificité des Français, voilà, de faire des repas qui traînent jusqu'à 16 heures ou plus... Et voilà, je voyais pas ça, je voyais ça comme une particularité, mais pas autant dans l'exagération que ce que lui peut dire. Alors après, est-ce que son regard est totalement objectif, je sais pas. Mais c'était rigolo et c'était très sympa à lire.
Ouais. Mais après, j'imagine que c'est une critique, comme tu dis, assez fondée et assez clairvoyante. Enfin voilà, c'est quand même documenté, c'est pas gratuit. Parce que moi, j'avais lu un livre d'un anglais qui s'appelle God Save les Français. Et donc, il parle des Français. Et là, c'est très caricatural. Quoi. Ouais. C'est pas... Ça se veut
comme
rigolo,
on doit parler des Anglais ou des Belges ou les Belges, de... ça doit déjà exister ce genre de. Mais c'est bien, ça nous fait prendre du recul aussi, c'est comme tu expliques.
Alors que là, ça a l'air vraiment documenté, fondé et bienveillant.
À un moment,
aussi.
Il parle de littérature, ça m'a fait rire parce qu'il dit, mais enfin, il y a qu'un pays dans le monde qui considère la brève de comptoir comme un genre littéraire. Il y a voilà des tas de petites choses, des tas de toutes petites remarques comme ça où voilà, ça te fait sourire parce que c'est. C'est très sympa, en fait.
C'est construit comment? Par chapitre? Par
thème? Par chapitre, qui sont, en fait, des thèmes. Alors, par exemple, il y a les Français et le sport. Alors, ça aussi, c'est très drôle, sur le foot, notamment, sur les Bleus sont les meilleurs du monde, ils font peur à tout le monde, c'est incroyable.
Mais
et puis, finalement, quand on fait le bilan, ils ont gagné en 98, mais après...
En 2000.
En 2000?
Oui, voilà, les deux fois où ils ont accueilli la Coupe du Monde, en fait, et la Coupe d'Europe.
En 86. Bah, les Canadiens, ils n'ont jamais gagné.
Oui, bah, c'est ça, les Canadiens. Ils jouent pas au soccer.
Ah ben, ils ont jamais gagné.
Les Français sont chauvins aussi. Ouais. C'est ça.
C'est chapitre 4.
Non, c'est très sympa. Et oui, je conseille parce que c'est un bon livre à avoir à côté de soi et puis à ouvrir pour faire rire le voisin. C'est plutôt pas mal.
Mais tu as bien fait de ne pas gagner la dernière fois.
Eh ben oui, finalement. Bonne surprise, ouais.
Sachant que pour le thème de la semaine prochaine, tu as quand même choisi en premier.
Ouais, et je sais plus
souviens.
Du tout ce que j'ai choisi, dis donc.
Moi, ça fait pleurer tout
vu qu'en grand chevalier, j'ai laissé ma place de vainqueur à Pauline pour choisir en dernier, donc je me retrouve bien sûr avec des gros livres, mais ce n'est pas grave car j'aurai le temps, je suis en vacances la semaine prochaine. C'est ça. C'est quoi le thème la semaine prochaine, dans deux semaines
Europe de l'Est, donc on partira en République tchèque.
Oh, il va y avoir du détournement de cartes, peut-être.
Non, République tchèque, Roumanie, Hongrie, voilà, la littérature de ces pays-là.
Moi, j'ai un livre, c'est Le chant du peuple juif qu'on égorge.
Que tu as choisi toi-même.
J'ai choisi par moi-même,
de la poésie. Je n'ai pas pris exprès.
Poésie difficile, ouais.
C'est ça.
Je pensais que ce serait un peu plus simple.
Bon,
ce sera moins gai que Paul à Québec.
Excellent. On va se quitter avec... Quoi, Valérie?
Écoutez, on pourrait faire... Il y a une habitude, moi, quand j'étais au lycée, donc à la ville de Belleville, entre Ottawa et Toronto, matin, quand on arrivait au lycée, on se levait tous. Si on était en retard, on s'arrêtait de courir et on écoutait en chantant très fort ceci.
C'est beau, hein? Non, mais tu peux continuer, vas-y.
C'est mon téléphone qui a bugué.
Ah mince.
Je croyais que c'était toi qui avais réussi à récupérer le son.
L'hymne canadien. C'est l'hymne canadienne, oui. C'est vrai qu'elle est belle.
C'est vrai que j'aurais pu le récupérer. Vas-y. Je pense que ton micro est de l'autre côté. Non.
Hymne qui a été repris, enfin qui a une version anglaise et une version française, comme ça.
Ça fait très Jeux Olympiques.
C'est ça, parce qu'ils gagnent souvent en
Ça fait du bien, un peu de patriotisme. Ouais,
c'est un très beau pays, ceci dit, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'y aller.
Merci de ton intervention, Valérie. Tu as donc.
Tu te la pètes un peu, Valérie.
Tu as donc deux semaines pour faire un mixte des hymnes roumains, tchèques.
Tout le monde n'a pas 28 000 euros à dépenser dans un voyage.
C'est ça. Allez, merci les filles, à dans deux semaines. Allez, Valérie.
Bisous, bye.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.